Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guerrier et Eric Manilakis en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du jeudi 29 septembre 2016. Au sommaire ce soir.
Au Gabon, le tout nouveau Premier ministre promet un gouvernement d'ouverture dès dimanche. L'opposant Jean Ping se dit toujours le vainqueur de la présidentielle.
Burundi, un chef d'un parti d'opposition arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État.
Les États-Unis ont extradé vers Kigali un professeur rwandais accusé de génocide.
Mauritanie, transfert au nord du pays de 13 militants anti-esclavagistes condamnés à des peines de prison pour usage de la violence.
Tension entre Riyad et Washington à la suite du vote du Congrès américain sur les attentats du 11 septembre, autorisant les proches de victimes à poursuivre en justice l'Arabie Saoudite.
L'économie et les sports.
Et juste après le journal. Le Gabon est loin de sortir de la crise. Ali Bongo a prêté serment et tendu la main à l'opposition. Il a nommé Emmanuel Issoze Gondé comme nouveau Premier ministre. L'ancien chef de la diplomatie promet d'aller vite vers un gouvernement d'ouverture. Il a donné ce matin une conférence de presse à Libreville. On écoute Monsieur Emmanuel Issoze Gondé, le tout nouveau Premier ministre gabonais.
Le président de la République, chef de l'État, vient de me confier la charge de Premier ministre, chef du gouvernement. C'est une très haute marque de confiance qui m'honore et qui m'oblige. Le sentiment de profonde gratitude qui m'habite en ce moment m'engage à tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance et être à la hauteur de ses attentes. La composition du nouveau gouvernement sera rendue publique le dimanche 2 octobre. J'ai été instruit de proposer au chef de l'État un gouvernement largement ouvert. C'est un gouvernement d'ouverture, largement ouvert aux forces vives de la nation, qui répondent aux exigences d'une République plus juste et plus solidaire.
Voilà, c'était donc Emmanuel Issoze Ngondé, le tout nouveau Premier ministre gabonais. En face, l'opposant Jean Ping a donné aussi une conférence de presse. Il refuse toujours de connaître la victoire de son rival Ali Bongo et rejette la main tendue du pouvoir en faveur du dialogue.
Et nous restons au Gabon, Morgane, pour parler des violences post-électorales. La Cour pénale internationale annonce un examen préliminaire. La procureure Fatou Bensouda souhaite déterminer si les critères imposés pour l'ouverture d'une enquête sont réunis. Le gouvernement de la République gabonaise a notamment fait part de faits relevant de l'incitation à commettre le crime de génocide, de crime contre l'humanité, qu'il attribue aux militants favorables au candidat d'opposition Jean Ping.
République démocratique du Congo, le facilitateur du dialogue national, a annoncé la reprise des travaux de ce forum, suspendu après les émeutes des 19 et 20 septembre à Kinshasa. En revanche, l'Église catholique maintient sa mesure de suspension.
Un universitaire et ancien dirigeant syndical rwandais recherché depuis 12 ans pour son implication présumée dans le génocide de 1994 a été extradé hier des États-Unis vers le Rwanda. Nathalie Barge.
Léopold Munyakazi, qui nie avoir participé au génocide, était détenu dans l'Alabama après le rejet de sa demande d'asile aux États-Unis, où il vivait depuis 2004. En 1994, il était secrétaire général de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda. Il avait été détenu au Rwanda pour participation présumée au génocide avant d'être relâché et de gagner les États-Unis où il enseignait le français. Kigali a émis deux mandats d'arrêt à son encontre en 2006 et 2008. Il disait être poursuivi pour ses opinions politiques hostiles au régime actuel. Le parquet conteste sa version et le poursuit pour génocide et crimes contre l'humanité. Une dizaine de Rwandais ont déjà été renvoyés à Kigali, principalement en provenance des États-Unis, du Canada et de l'Ouganda.
Le chef d'un parti d'opposition au Burundi, Gervais Niyongabo, l'un des derniers à être resté dans le pays, a été arrêté hier à Makamba, dans le sud du pays, pour atteinte à la sûreté de l'État. Les détails avec Nani Talani.
Président d'un parti et membre du CNARED, la principale coalition d'opposition au Burundi, Gervais Niyongabo a été arrêté selon la police pour participation à des bandes armées et atteinte à la sûreté de l'État. Il est actuellement détenu à Bujumbura par le Service national de renseignement, a précisé le porte-parole de la police, Pierre Nkourikiye. De plus, depuis 2 semaines, 8 policiers et 15 militaires ont été arrêtés pour les mêmes motifs, a-t-il ajouté. Le pouvoir burundais accuse le CNARED, la principale plateforme d'opposition, d'être lié à une tentative de coup d'État en mai 2015 et aux violences qui frappent le pays depuis lors. De son côté, l'opposition accuse le pouvoir de cibler des soldats issus de l'ancienne armée dominée par la minorité Tutsi. Plusieurs d'entre eux ont déjà été exécutés depuis le début de la crise en avril 2015. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé près de 300 000 personnes à quitter le pays.
Et l'Union européenne a prolongé jusqu'au 31 octobre 2017 ses sanctions sur 4 Burundais. Godefroy Bizimana, Gervais Ndirakobucha, alias Ndakugarika et Mathias Joseph Niyonzima, alias Kazungu, sont accusés d'avoir joué un rôle de premier plan dans les violences survenues en 2015 après l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Leurs avoirs sont gelés dans l'Union européenne et sont interdits d'entrer dans l'Union.
Remous au sein du parti au pouvoir au Mali. 4 députés du Rassemblement pour le Mali quittent ce parti. Ils dénoncent la mauvaise gouvernance et ils ont rejoint l'Alliance démocratique pour la paix, un parti d'opposition.
Mauritanie, 13 militants anti-esclavagistes ont été transférés de la capitale Nouakchott vers Zouerat, le nord du pays. Ces détenus ont été condamnés pour usage de la violence. Leurs avocats estiment que ce transfèrement vise à compliquer la tâche de la défense.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite se sont brusquement tendues après le rejet hier par le Congrès du veto du président Barack Obama sur une loi autorisant les proches de victimes du 11 septembre à poursuivre en justice l'Arabie saoudite. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est un coup de poignard dans le dos. La formule choc utilisée par l'Arabie saoudite illustre bien la colère des Saoudiens. Riyad est un allié de longue date des États-Unis. Ce vote hostile du Congrès pourrait impacter cette coopération, notamment dans le contre-terrorisme. Salman al-Ansari, président de la SAPRAC, un comité privé pour la promotion des relations saoudo-américaines, prévient même « J'ai peur que cette loi, irréaliste et irréfléchie, ait des implications stratégiques catastrophiques. Comment pouvez-vous poursuivre un pays qui collabore contre ce même terrorisme dont il est accusé sans fondement » s'interroge-t-il. 15 des 19 auteurs des attentats du 11 septembre étaient des ressortissants saoudiens, mais la responsabilité de l'Arabie saoudite n'a jamais été démontrée. Pour sa part, le président Barack Obama a qualifié d'erreur ce camouflet du Congrès américain.
Le peuple israélien fait ses adieux à Shimon Peres. Les funérailles de cette grande figure s'annoncent demain comme une réunion exceptionnelle. Autour de la dépouille du prix Nobel de la paix, des dizaines de dirigeants étrangers, dont le président américain Barack Obama, mais aussi a priori le président palestinien Mahmoud Abbas, sont attendus. La présence de M. Abbas sera la première visite publique de sa part à Jérusalem depuis des années.
La Russie a annoncé aujourd'hui n'avoir aucune intention de faire une pause dans ses raids aériens en Syrie en soutien aux forces de Bachar al-Assad. Moscou défie ainsi les appels de toutes parts à cesser le déluge de feu à Alep. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, a dénoncé la plus grave catastrophe humanitaire jamais vue en Syrie en 5 ans de guerre.
Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés a indiqué aujourd'hui se préparer à aider au moins 700 000 personnes dans le besoin à Mossoul, en Irak, dernier grand bastion du groupe État islamique. Selon le représentant du HCR en Irak, Bruno Guedo, la bataille de Mossoul a le potentiel de devenir l'une des plus grandes catastrophes de ces dernières années.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté aujourd'hui une résolution sur le Yémen. Mais le texte ne demande cependant pas la création d'une enquête sur les violations des droits de l'homme, comme le demandait l'ONU. 8 civils ont été tués dans 2 raids aériens de la coalition arabe dans une région du nord du Yémen contrôlée par les rebelles Houthis.
L'ONU va mobiliser 181 millions de dollars pour améliorer la réponse d'urgence à l'épidémie de choléra en Haïti. L'ONU prévoit aussi un programme d'aide directe en faveur des victimes et de leurs familles. Cette aide devrait représenter 181 millions de dollars.
Aux États-Unis, une personne au moins est morte dans l'accident de train qui s'est produit ce matin dans la gare de Hoboken, dans la banlieue de New York. C'est ce qu'a indiqué le gouverneur de l'État, Chris Christie. 19 personnes, dont un enfant de 3 ans, ont été retrouvées tuées aujourd'hui, jeudi, dans un village du sud-ouest de la Chine. Les autorités locales ont annoncé l'arrestation d'un suspect. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Les pays de l'OPEP sont parvenus mercredi soir en Algérie à un accord surprise pour réduire la production d'or noir entre 32,5 et 33 millions de barils par jour. Presque immédiatement, le prix du brut a rebondi pour atteindre 50 dollars le baril. La production et les exportations de cacao de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, ont baissé de plus de 12%, passant de 1791 millions de tonnes lors de la campagne 2014-2015 à seulement 1565 millions de tonnes pour la campagne 2015-2016. Par ailleurs, le prix minimum garanti du kilogramme de cacao a été fixé à 1100 francs CFA par kilogramme pour la saison 2016-2017. 100 millions d'euros, c'est le montant du prêt que la Banque européenne d'investissement vient d'approuver pour une nouvelle station de traitement d'eau potable qui sera construite à Cœur Momarsar, dans le nord-ouest du Sénégal. Cette zone alimente déjà à hauteur de 40% la capitale sénégalaise. La nouvelle station de traitement d'eau potable devrait avoir une capacité de 100 000 mètres cubes par jour.
On enchaîne avec les sports. Nicolas Pinault dans le studio. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Eric.
On commence par l'Europa League ce jeudi.
Défait d'entrée de jeu, Manchester United et José Mourinho ont l'occasion de se racheter en recevant les Ukrainiens de Zorya Lugansk. Dans l'autre match du groupe, Feyenoord tentera de conserver sa position de leader dans le bouillant stade de Fenerbahçe. Une réaction d'orgueil est également attendue du côté des clubs italiens, surtout l'Inter Milan. L'équipe de Franck de Boer, créditée d'un bon début de championnat, troisième. L'équipe de Franck de Boer qui doit se rendre à Prague face au Sparta pour ne pas obstruer son avenir européen. L'AS Rome qui doit rebondir à domicile contre les Roumains d'Astra Giurgiu. Enfin, la Fiorentina reçoit Karabag, tandis que le PAOK va à Liberec.
Suite de la Ligue des Champions hier, Nico.
Les Espagnols de l'Atlético Madrid, finalistes de la C1 l'an passé, se sont imposés 1-0 contre les Allemands du Bayern Munich à domicile lors de la deuxième journée du groupe D. Aidé par le poteau, c'est le Belge Yannick Carrasco qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 35e minute de jeu d'une frappe du gauche à l'entrée de la surface. Belle victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 à Sofia face au Ludogorets, à noter le doublé d'Edinson Cavani. 2-0 pour Arsenal contre le FC Bâle grâce à un doublé de Walcott. Naples qui domine Benfica 4-2. Match nul un but partout entre le Beşiktaş et le Dynamo Kiev. 2 partout entre Rostov et le PSV Eindhoven. Le carton de la soirée, le match spectaculaire. 3 partout à Glasgow entre le Celtic et Manchester City. A noter la victoire à l'extérieur du FC Barcelone 2-1 contre Mönchengladbach.
Enfin Nico, un Guinéen à la FIFA.
Almami Kabale Kamara a été élu membre du conseil de la FIFA, le comité exécutif qui dirige avec Gianni Infantino le foot mondial. Cette élection s'est faite au Caire par les membres de la CAF qui ont aussi désigné Kwesi Nyatangi du Ghana. L'ancien ministre de la Défense et actuel vice-président de la CAF doit son élection à ses bonnes relations, notamment avec Issa Hayatou.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Morgane Guiriek et Eric Manirakiza avec vous. Place au dossier du jour.
Rebond des cours du pétrole brut sur les marchés mondiaux après la décision prise mercredi soir à Alger par les pays de l'OPEP de réduire de 500 000 barils par jour leur production, qui est actuellement de 33 millions de barils par jour. Reste à savoir combien de temps durera l'embellie et quelle sera la réaction des producteurs de pétrole hors OPEP, notamment les producteurs américains. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse de Michael Kevin, professeur d'économie à l'université de Santa Clara en Californie.
Vous vous rappelez qu'il y a 2 ans, le prix était à peu près 100 dollars par baril. Et de nos jours, c'était réduit à 45 dollars par baril. Donc hier, avec l'annonce de la réduction, le prix a monté. Et je pense que l'Arabie Saoudite veut stabiliser le prix du pétrole à un prix de 47-50 dollars par baril.
Alors, c'est à la réunion de Vienne que sera décidée concrètement la répartition de cette réduction de la production. Comment voyez-vous cette rencontre?
Voilà, le problème, c'est que l'Arabie Saoudite, ils veulent que l'Iran coupe sa production ou n'augmente pas la production. Et l'Iran, bien sûr, continue toujours avec un déficit de production. Eux, ils voulaient remonter à leur production avant les sanctions américaines. Mais l'Arabie Saoudite veut qu'eux, ils continuent avec une production réduite. Donc, les analystes vont suivre de près si l'Arabie Saoudite peut vraiment avoir un compromis avec l'Iran pour que tous les deux réduisent la production.
La surproduction de pétrole de l'OPEP visait à écarter du marché les pays non OPEP, notamment les producteurs américains de pétrole de schiste. Quel sera l'impact sur ces producteurs?
Bon, l'augmentation du prix, c'est bon pour eux, bien sûr. Ce qui a surpris la plupart des analystes, non, c'est que la production du pétrole de schiste américain n'a pas diminué comme on attendait. C'est-à-dire, quand le prix était à 110 dollars et la production de schiste montait chaque année aux États-Unis, et les gens pensaient que quand le prix allait diminuer ça a diminué à 40 dollars, que la plupart des producteurs du pétrole de schiste allaient arrêter la production. Mais la plupart ont continué à produire.
Donc, ils sont là pour le long terme, ces producteurs de pétrole de schiste.
C'est ça qui paraît. Donc, les avances technologiques et peut-être une fois qu'ils ont produit quelques millions de barils, une production importante, ils ont beaucoup appris sur comment continuer la production à moins de coûts.
Voilà, c'était Michael Kevin, professeur d'économie à l'université de Santa Clara en Californie.
Dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation politique au Gabon. La Cour constitutionnelle a validé la victoire d'Ali Bongo, réinvesti à la tête du pays pour un deuxième septennat consécutif. Son rival Jean Ping conteste toujours cette élection, se considérant comme l'élu. Comment le président gabonais pourra-t-il réconcilier un pays divisé par des violences post-électorales? Quel avenir pour l'opposition? La communauté internationale aurait-elle pu s'impliquer davantage? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore a installé dans leurs fonctions aujourd'hui les membres de la commission constitutionnelle nommée il y a 3 mois. Les résultats de leurs travaux vont permettre de passer à la 5e République sont attendus dans 60 jours, comme nous le dit Zoumana Wanogo à Ouagadougou.
En installant les 92 membres de la commission constitutionnelle ce matin, le président du FASO, Roch Marc Christian, leur a dit ceci.
Il nous faut des institutions fortes et dont la qualité du consensus national nécessaire pour en fixer les bases permettent de garantir leur capacité à renforcer la cohésion sociale, à consolider l'unité nationale et à promouvoir la paix et la stabilité.
Le temps imparti pour sortir l'avant-projet de constitution est de 2 mois. N'est-ce pas un peu juste? C'est la question que nous avons posée à Alidou Ouédraogo. Il est le président de la commission constitutionnelle.
Il nous a donné 2 mois pour achever notre travail. C'est pour installer la loi fondamentale, le socle. C'est bon. Notre priorité, c'est de nous asseoir, de nous installer et de commencer le travail tout de suite. On va dessiner les grandes lignes. Il s'est obtenu un texte conforme à l'aspiration de notre peuple.
Qu'attendre de la nouvelle constitution en préparation? Suivant Chrysogone Zoukmouré, le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme.
L'élément essentiel sur lequel il faudra veiller et mettre l'accent, c'est celui de la séparation effective des pouvoirs, notamment du pouvoir judiciaire. Lorsque la justice ne fonctionne pas, toutes les voies sont ouvertes à toutes les dérives possibles.
Pour Smoky, artiste, musicien et responsable du ballet citoyen.
L'article 37, ça on débat même pas, ça on discute pas. Ça, c'est quelque chose qui doit être sacralisé, verrouillé, collé, stocké, soudé, de façon à ce qu'on ne puisse plus jamais le faire, même si on est tenté de le faire. Peut-être améliorer aussi ce code minier là. Il y a déjà eu des gains qui ont été faits, mais il serait bien qu'il y en ait encore plus, et surtout qu'il y ait une loi qui permette de faire le suivi réel de ce que ces contrats-là apportent vraiment aux populations et au niveau régional surtout.
Sur la nécessité de faire une nouvelle constitution, écoutons ce qu'en dit Juliette Bonkougou. Elle est députée du parti de Blaise Compaoré.
Juridiquement, je pense que ce n'était pas indispensable. Mais je suis une femme politique et je peux comprendre également que les gens aient besoin d'une symbolique nouvelle. Parce qu'on ne peut pas, comme par fiction, faire comme si l'insurrection n'a pas eu lieu. Donc, je peux comprendre la préoccupation sur le plan politique, mais s'il s'agit du droit stricto sensu, je dis que ce n'était pas indispensable.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le Sénat et la Chambre des représentants ont rejeté hier, à une très large majorité, un veto du président Barack Obama sur une loi autorisant les proches de victimes du 11 septembre à poursuivre en justice l'Arabie saoudite. Anastasie Tudiesch a demandé à Emiliano Viano, professeur de sciences politiques à l'American University, ce que cette décision du Congrès américain impliquait et quelles conséquences elle entraînerait.
Il représente un moment très historique dans l'histoire politique des États-Unis parce que c'est la première fois qu'il y a cette action par le Congrès pendant l'administration de Barack Obama. Et c'est à la fin de son mandat, de sa présidence. On pourrait le considérer comme un cadeau d'adieu des républicains particulièrement, mais comme elle a été à l'unanimité, c'est vraiment impressionnant que le Congrès a refusé l'opinion du président depuis 8 ans de présidence et de travail ensemble. L'Arabie saoudite a semé la semille de ce que nous sommes maintenant au moment de la récolte. Et finalement, on s'est aperçu de ça. Un autre élément très important, c'est l'indépendance énergétique croissante des États-Unis. Comme nous savons, avec de nouvelles techniques, à quelle fois il y a beaucoup de controverses sur ça, on peut obtenir du pétrole aux États-Unis même, particulièrement dans le sud des États-Unis, dans une façon impressionnante. Et l'Arabie saoudite a même essayé de sabotage, n'est-ce pas? Et ça aussi n'a pas passé bien ici aux États-Unis. On s'est aperçu qu'il n'était pas vraiment un allié très, très, très confiable. C'est aussi une, si vous voulez, une démonstration d'indépendance du Congrès parce que le président ne se présente pas pour réélection, mais les sénateurs, les congressistes se présentent pour réélection. Alors, ils ont dit, bien, le président peut dire ça parce qu'il termine sa présidence, il n'a pas besoin d'être réélu. Mais nous sommes dans une autre situation.
Comment l'Arabie saoudite réagit?
Bien, l'Arabie saoudite, naturellement, n'est pas très heureuse qu'il s'est passé ça, parce qu'il y a la possibilité qu'il doit maintenant révéler beaucoup de choses. se défendre dans un tribunal et peut-être payer des millions de dollars aux survivants des victimes, etc.
Voilà, c'était Emiliano Viano, professeur de sciences politiques à l'American University. Présidentielle américaine, nous poursuivons notre carnet de campagne. Pour cela, nous retrouvons Jacques Aristide. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Morgane.
Parlons d'emblée d'Hillary Clinton et de ses retrouvailles avec Bernie Sanders. Retrouvailles qui n'ont pas été particulièrement chaleureuses hier soir.
Oui, c'était leur deuxième réunion publique depuis la fin des primaires démocrates. Pas très chaleureuse, mais le courant passe mieux. Bernie Sanders était très applaudi par environ 1200 personnes sur le campus de l'université du New Hampshire à Durham. Le charismatique sénateur indépendant du Vermont à 75 ans a été plébiscité par les jeunes démocrates lors des primaires. L'équipe Clinton l'a embauché pour tenter de remonter la cote de celle qu'il a battue auprès de cette population ancrée à gauche. Mais la tâche est immense alors que les deux tiers des Américains de moins de 30 ans avaient voté pour Barack Obama en 2008. Cette année, Hillary Clinton atteint à peine la moitié dans les sondages. Entre les déçus de Bernie et ceux tentés par le candidat indépendant Gary Johnson, le nombre d'indécis à 5 semaines du scrutin donne des sueurs froides dans les états-majors démocrates.
Et de son côté, Donald Trump était en campagne à Chicago, Jacques.
Oui, c'était à l'invitation d'une organisation regroupant des Américains d'origine polonaise. Le candidat républicain leur a promis que l'Amérique serait un véritable ami de la Pologne s'il était élu président. Il a également comparé sa campagne avec le vote pour le Brexit, ce plébiscite des électeurs britanniques pour la sortie de leur pays de l'Union européenne.
And now they're calling me Mr. Brexit.
Et maintenant, on m'appelle Monsieur Brexit. Donald Trump s'est ensuite rendu à Waukesha, dans le Wisconsin, où il a relayé une rumeur véhiculée par le site pro-gouvernemental russe Sputnik, selon laquelle Google retirerait les mauvaises informations ayant trait à sa rivale Hillary Clinton.
Alors Jacques, avant de terminer, vous évoquiez le nom de Gary Johnson il y a un instant. Ce candidat libertarien à la Maison-Blanche a commis une autre gaffe.
Oui, parce qu'il était incapable de nommer le moindre dirigeant étranger après avoir semblé, il y a 3 semaines, ne pas connaître la ville d'Alep en Syrie. Invité avec son colistier William Weld dans l'émission de Chris Matthews sur la chaîne MSNBC hier soir, Gary Johnson est resté sans voix pendant une longue minute quand le journaliste lui a demandé de citer les dirigeants étrangers qu'il a préférés. De n'importe quel continent, n'importe quel pays, citez le nom d'un dirigeant que vous respectez et que vous admirez, n'importe qui. Et M. Johnson de répondre, je crois que c'est ma minute Alep.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Nachwan Kaldi à la console. Présentation Morgane Diriek et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook, près de 2 millions déjà. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique. VOA